Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 21 mai 2025. Bonjour Martin!
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde!
Nous voilà de retour de vacances. Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis le début mai?
Bien, comme d'habitude, on dirait depuis quelques années, quand on part en vacances, la bourse performe super bien. Bien, tant mieux, on devrait peut-être prendre plus de vacances. Ceci dit, depuis le début du mois de mai, le TSX au Canada est en hausse de 4,75%. Hier, le TSX a donc atteint un nouveau sommet historique. Donc, non seulement la baisse là, du début de l'année est effacée, mais on fait même un nouveau sommet. Du côté du S&P 500 aux États-Unis, on n'a pas tout à fait récupéré le sommet du mois de janvier. On demeure en baisse de 3,3 depuis la fin du mois de janvier, mais quand même en hausse de 6,8 depuis le début du mois de mai. Depuis le creux qui a été atteint là, au mois de mars, là, on parle d'un rebond de 22,8. Donc, vraiment là, très, très fort et très rapidement. Le Nasdaq, du côté des titres technologiques, demeure en baisse de 5,2 depuis son sommet. Par contre, un rebond de 9,6 en mai, 29,4 depuis le creux. Donc, vraiment, là, quand on dit il faut demeurer discipliné, demeurer investi, ça aussi, ça va passer. Bien, encore une fois, on a un bon exemple à quel point, quand on est quasiment désespéré, c'est probablement le creux du marché. C'est pas le temps de vendre, c'est juste le temps de au moins rien faire et la bourse se replace quand même assez rapidement. Les taux d'intérêt ont quand même augmenté. Du côté américain, les obligations américaines 10 ans, le taux était de 4,17 à la fin avril. On est à 4,48 présentement, donc quand même un rebond de 0,3, c'est beaucoup. Pourquoi? Ben, probablement en partie à cause de la décote de la dette américaine. Donc, il y a trois agences de crédit qui cotent les obligations importantes, là. Donc, il y a Moody's, S&P, Standard & Poor's et Fitch. Les Fitch et S&P avaient déjà décoté les États-Unis il y a fort longtemps, là, quelques années. Dans le cas de Moody's, là, maintenait la plus haute cote de crédit à AAA. Ceci dit, donc une décote, là, il y a 27 niveaux de cote de crédit chez Moody's. Donc, les États-Unis étaient à la plus haute cote, mais là, sont à la deuxième plus haute, mais il en reste quand même en autre 25 en arrière, là. Donc, c'est pas la catastrophe. C'est pas non plus complètement inattendu, là. Il y avait déjà deux agences sur trois qui avaient décoté les États-Unis à AA+. Donc, quand même, ça a eu un certain impact. Et également, du côté canadien, là, on est un petit peu relié au marché américain. Donc, on est passé de 3,12 à 3,3. Donc, une petite hausse au niveau des taux d'intérêt. Au Canada, l'inflation a été annoncée 1,7% hier. C'est quand même légèrement plus que ce qui était anticipé à 1,6, mais en baisse par rapport au mois précédent à 2,3%. Du côté américain, on parle d'une inflation là, en avril qui était de 2,3%. On verra donc pour les prochains mois. Là, avril, c'était le début là, de l'histoire des tarifs. Donc, voyons là, quel sera l'impact dans les prochains mois. Pour l'instant, je pense que la Réserve fédérale américaine avec Jerome Powell attend un peu de voir l'impact des tarifs justement sur l'inflation avant de vouloir bouger les taux. On a donc quelques titres qui ont fait des nouveaux sommets. On se souvient, l'année passée, la banque TD avait toutes sortes de problèmes là, avec les histoires de blanchiment d'argent. Le titre avait baissé quand même beaucoup. Ben, c'était une des meilleures banques là, dans les derniers mois. Atteint un nouveau sommet là, de quelques années hier. Et Mastercard également, nouveau sommet historique. Donc, Mastercard, faut croire que les consommateurs continuent de bien consommer là, parce que Mastercard continue de faire de la bonne business et d'augmenter son chiffre d'affaires, entre autres au niveau des voyages. Donc, ça fait le tour. Ça va quand même relativement bien. On est content. La majorité des clients, là, les rendements sont positifs là, année à jour. Donc, à différents niveaux, là, c'est pas tout le monde qui a le même profil, évidemment, mais les craintes qu'on avait il y a quelques semaines sont pas mal estompées actuellement.
Donc, ça revient toujours, à chaque fois qu'on fait notre balado, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va arriver avec le marché. Donc, il faut juste rester calme et bien investi, bien diversifié.
Exact.
Merci beaucoup, Martin. Ce matin, je lisais le Wall Street Journal, comme à tous les matins, et il y avait un article sur quoi la planification successorale devient de plus en plus importante aux États-Unis. Les firmes, les petites firmes, les grosses firmes en font de plus en plus. Et j'ai trouvé trouvé ça intéressant parce que ça relie beaucoup à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, pour notre retour de vacances, on voulait faire un retour vraiment sur tous les services qu'on offre à nos clients. On veut être sûr que vous soyez bien préparés. Des fois, lors de nos conversations, on essaye très fort de communiquer qu'est-ce qu'on fait. Des fois, on peut manquer aussi que vous avez un besoin. Donc, on trouvait aujourd'hui que ça serait utile de passer à travers vraiment tous les services. On a déjà discuté de tous ces services-là sur le balado, mais un épisode là, qui fait le tour. Donc, on va commencer par le début, Martin, et par l'élément qui est le plus reconnu par nos clients, c'est la gestion de portefeuille. Qu'est-ce que ça inclut?
Exact. Donc, nos clients pensent à nous, puis ils pensent à, ben, on fait juste gérer de l'argent. C'est la première affaire à laquelle ils pensent. C'est pas que ça, mais c'est effectivement là, un côté très important. Ça consiste essentiellement, dans un premier temps, à établir un profil d'investisseur. Hein? Donc, qui êtes-vous comme investisseur? Quelles sont vos préférences, vos contraintes? Quelle est votre tolérance au risque? Donc, il faut d'abord établir ça. Ça va nous aider à établir ensuite une répartition d'actifs. Donc, la répartition d'actifs, c'est vraiment la pierre angulaire d'un portefeuille. C'est l'étape la plus importante. Ben, c'est essentiellement combien de revenus fixes, combien d'actions dans le portefeuille. Donc, quelle est la proportion de croissance? C'est pas très compliqué là, en investissement. Plus j'ai d'actions, meilleure sera ma performance à long terme. Par contre, je devrais tolérer plus de volatilité. Est-ce que je suis psychologiquement capable, émotionnellement capable, financièrement capable de tolérer cette volatilité-là? C'est un petit peu là, l'importance d'établir le profil d'investisseur et la tolérance au risque. Donc, une fois qu'on a déterminé la répartition d'actifs, on doit ensuite choisir des titres. Donc, ça peut être des actions, ça peut être des fonds mutuels, des fonds négociés en bourse là, ou des FNB, des obligations à la pièce, ça peut être... Donc, on a accès à pas mal tous les titres qui existent. Et donc, on veut respecter un peu le choix de nos clients. On a notre recette, on a notre sauce bien personnelle, notre façon qu'on pense qui est la meilleure. Par contre, on va adapter les portefeuilles. On ne fait pas de la gestion discrétionnaire. Donc, on veut que nos clients le soient à l'aise avec le portefeuille. Puis, on va choisir des titres qui font leur affaire. On va ensuite s'assurer de rééquilibrer le portefeuille périodiquement. Donc, évidemment, les marchés bougent. Donc, à l'intérieur du portefeuille, ce ne sont pas tous les titres qui évoluent dans la même direction en même temps. Ça crée des déséquilibres qu'on doit venir rectifier périodiquement, s'assurer qu'on n'a pas d'excès de conviction, qu'un titre ne devient pas trop gros, et ainsi de suite. On va aussi, donc, évidemment, réviser périodiquement le portefeuille, non pas pour juste le rééquilibrer, pour en mesurer la performance. Et la performance qu'on va venir mesurer en fonction d'un plan financier. Donc, quel est le rendement qu'on doit générer pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? On peut mesurer face à des indices boursiers. Tu sais, oui, c'est important, c'est moins important que de s'assurer qu'on rencontre le rendement nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est d'abord et avant tout là, face à ça qu'on doit venir mesurer cette performance-là.
Puis dans la gestion de portefeuille, qu'est-ce qui est inclus? C'est la partie que vous voyez probablement beaucoup moins. C'est beaucoup de lecture. Hein? Faut être à jour sur qu'est-ce qui se passe avec nos gestionnaires de fonds, qu'est-ce qui se passe avec les actions, qu'est-ce qui se passe avec l'économie dans son ensemble. Donc, on fait beaucoup de lecture pour vous, qui fait partie de vraiment bien gérer un portefeuille. On en a traité beaucoup de ce sujet-là sur notre balado, donc on va y passer quand même assez rapidement. Mais est-ce que tu peux parler de planification de retraite et de décaissement?
Bien, donc, c'est quoi la planification? Essentiellement, on va vouloir mettre dans un logiciel de planification financière toutes vos informations. Donc, quelles sont... D'abord, vos dépenses, c'est quoi votre coût de vie? Donc, on peut vous aider à le déterminer. Il y en a qui ont un budget, là, un beau fichier Excel avec toutes les dépenses qu'ils font. C'est assez rare, je vous dirais. Mais on va à ce moment-là partir des revenus bruts, moins l'épargne, moins l'impôt, moins ainsi de suite. Bien, ce qui reste, c'est ce que vous avez dépensé. Hein? Donc, on est capable de déterminer ça. Quelles sont vos sources de revenus, les pensions, ça peut être les pensions gouvernementales, quels sont vos actifs, quelles sont les dépenses, les engagements financiers, j'ai-tu une hypothèque, j'ai-tu un prêt personnel, j'ai-tu des dépenses importantes à prévoir comme des rénovations, comme un don à un enfant pour une mise de fonds sur une maison par exemple, donc d'intégrer toutes ces informations-là pour essayer de tracer un chemin financier jusqu'à la fin de vos jours. Quelle sera l'inflation? Donc, on va utiliser les données qui sont suggérées par l'Institut de planification financière. Tout ça, ça vise à répondre à une question principale. Est-ce que j'en aurai assez pour rencontrer mes objectifs jusqu'à mon décès? Et puis si c'est oui, tant mieux, mais si j'en ai trop, je fais quoi avec l'excédent? Est-ce que j'ai des stratégies que je peux mettre en place? Et si j'en ai pas assez, ben qu'est-ce que je peux faire aussi pour corriger? Donc, des fois, on va avoir assez d'actifs, mais pas nécessairement liquides. Donc, si j'ai un peu de placement, un peu de REER, puis j'ai une maison d'un million, bien, quand j'aurai plus de liquidité, tu sais, je peux pas décrocher une fenêtre puis amener ça à l'épicerie pour payer l'épicerie, là. Donc, je vais devoir monétiser ma maison pour subvenir à mes besoins. On peut donc déterminer, bien, à quel âge ça va arriver, là, cette nécessité-là de monétiser la maison et qu'est-ce qui peut être fait à ce moment-là.
Puis, un des buts de la planification, c'est vraiment de donner l'équilibre à nos clients. Hein? C'est de dire, bon, je veux avoir une retraite qui est active, qui est bien, mais je ne veux pas trop avoir peur non plus d'en manquer. Donc, comment je peux atteindre cet équilibre-là, d'avoir du plaisir, mais aussi d'avoir assez d'argent. On peut aussi faire des planifications plus ou moins complexes. Donc, si ça dépasse notre champ de compétences, on a une équipe aussi de planificateurs qui sont là pour nous assister. Ouais. Donc, des fois, avec les entrepreneurs, ils ont plusieurs compagnies, ils ont des compagnies de gestion. Donc, tout ça peut être intégré et on peut vous assister avec ces éléments-là. Est-ce que tu peux parler aussi, parce que faisant partie de la planification, on inclut un bilan successoral et aussi de parler de planification successorale?
Ouais, donc, le bilan successoral qui est une partie intégrante de la planification, ça vise à voir bien, quelle serait la valeur de la succession au décès. On ne connaît pas votre date de décès, évidemment, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire mourir à intervalles réguliers, évidemment, théoriquement. Donc, on sait que quand on décède, on est présumé avoir vendu tous nos actifs à la valeur marchande et l'impôt est dû à ce moment-là. Si j'ai un conjoint, une conjointe, bien là, je peux rouler les biens à ma conjointe puis pas payer d'impôt. Donc, on fait à ce moment-là mourir les deux conjoints en même temps. Ça déclenche donc l'impôt à payer. Ça permet donc de mesurer d'abord est-ce que la succession elle est liquide. Donc, si j'ai un chalet, des propriétés à revenus, si j'ai beaucoup d'impôts à payer, mais je n'ai pas beaucoup de placements, bien, est-ce que j'aurai assez de liquidité dans ma succession pour couvrir les impôts? Sinon, le liquidateur devra vendre rapidement un bien pour payer l'impôt. Quand on vend un bien rapidement, bien, généralement, ce n'est pas nécessairement le meilleur prix qu'on va obtenir pour ce bien-là. Donc, on va établir quel est l'impôt à payer à intervalles réguliers et puis voir est-ce qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer de réduire ou de minimiser cet impôt-là. Et puis, en même temps, ben, une fois qu'on a ça, on a les valeurs, qu'est-ce qui va rester dans ma succession nette des impôts? Bien, on va réviser votre testament, relire votre testament et vos mandats d'inaptitude. Est-ce que le testament reflète bien votre situation financière présente? Donc, bien souvent, les gens disent « Ouais, j'ai un testament, là, j'ai fait ça il y a 20 ans, puis c'est parfait, je donne ça à mes deux enfants en part égale. » Bien, tu sais, il y a 20 ans, il n'y avait pas de CELI, fait que probablement que vous n'avez pas écrit qu'est-ce que vous faites avec votre CELI dans votre testament, par exemple. C'est simplement un exemple. Donc, nous, de relire, on va aussi des fois déceler des paragraphes qui peuvent porter à confusion. Donc, les gens, quand ils écrivent leur testament, ils ont des intentions. Ils veulent qu'il se passe quelque chose. Puis là, c'est rédigé. Bien, si moi, je suis pas sûr que ce que vous avez dit, que tu sais, ça peut porter à confusion entre deux choses, bien, le liquidateur, lui, il est pas là pour vous poser la question. Là, vous serez pas là pour répondre. Donc, c'est très important là, de bien s'assurer que c'est clair, que les intentions qu'on veut, c'est bien rédigé dans le bon ordre.
Puis encore une fois, on a une équipe à l'interne. Donc, on a des spécialistes, on a des notaires. Ils ne sont pas là pour écrire les documents légaux, mais ils sont là comme consultants. Donc, si vous avez des questionnements à ce niveau-là, on discute beaucoup du testament avec nos clients et mandats. Mais si vous avez des questionnements, communiquer avec nous, on peut vous mettre en lien avec cette équipe-là.
On va toujours suggérer aux clients de relire les testaments environ aux 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps le changer, mais au moins, juste, on le relit, c'est parfait, on remet ça dans le tiroir, c'est réglé, mais c'est une bonne idée, le diable est dans les détails, c'est généralement pas à qui on veut léguer qui change, c'est qui est mon liquidateur, qu'est-ce qui arrive, les actifs que j'ai. J'avais légué le chalet à un, mais là, finalement, je ne l'ai plus, le chalet, je l'ai vendu. Des choses comme ça.
Super. Puis est-ce que une chose qu'on fait qui n'est pas aussi claire peut-être pour les gens, c'est la gestion fiscale et aussi s'assurer du décaissement fiscalement avantageux.
Ouais, donc quand c'est le temps de décaisser, donc tu sais, on économise pour nos vieux jours, ben quand on est vieux, c'est le temps de décaisser. Là, c'est des paroles de mon ancien collègue, le régent. Ben comment je dois structurer mon portefeuille pour essayer de non seulement me générer un revenu régulier mensuel pour faire face à mes dépenses, mais est-ce que je peux réduire mon impôt? Est-ce que je peux l'automatiser de façon efficace pour que ce soit simple là, pour moi de bien gérer? Donc, on va vous aider. Là, ça fait partie du plan financier. Par exemple, les régimes de pension gouvernementaux, là, la sécurité de vieillesse, la RRQ, est-ce que je la prends dès que j'y ai droit? Est-ce que je la repousse à 70 ans? Quel est l'avantage ou l'inconvénient de le faire? Donc, si je repousse ma RRQ, peut-être que je décaisse des REER plus vite. Peut-être qu'en général, ça va me permettre de payer au total moins d'impôts. De mettre les bons titres dans le bon compte, d'éviter d'avoir des revenus d'intérêt dans le compte comptant, d'avoir plus des revenus de dividendes ou du retour de capital, là, donc une source de revenus qui est fiscalement plus efficace. Ça peut me permettre donc de sauver des crédits sociaux. Donc, on a certains clients qui peuvent avoir droit au supplément de revenus garanti. Ben, si on leur met des placements qui génèrent plein de revenus taxables, ben, non seulement ils peuvent payer de l'impôt sur ces revenus-là, mais perdre, par exemple, du supplément de revenus garanti ou du retour de TPS, ben là, ça augmente le taux effectif d'imposition. Et on va avoir nos clients vont souvent nous demander d'automatiser un décaissement, donc à tous les mois, deux semaines, là, de recevoir un dépôt dans leur compte pour leurs dépenses. Ce qu'on veut éviter, c'est de bêtement vendre des titres en toutes circonstances. Et donc, quand on retire d'un portefeuille, on ne vend pas à bêtement un peu de tout. On va venir sélectionner qu'est-ce qui est en bonne position pour être vendu. Donc, quand les marchés vont bien, ben, on en profite pour vendre des actions. Mettre un peu de profit de côté dans un compte à intérêt élevé, par exemple, duquel on va faire des retraits. Puis quand ça va mal, ben ça nous évite de vendre des actions. On a déjà de l'argent de côté là, en sécurité pour les retraits des prochains mois, prochains 6 mois, prochaine année.
Puis encore une fois, on a des spécialistes à ce niveau-là. Donc nous, on n'est pas des comptables, mais on a des fiscalistes à l'interne. Il y a une certaine partie qu'on peut faire avec vous. Puis si on a besoin de plus d'aide, on vous réfère vers nos fiscalistes. Donc il y a des clients qui peuvent avoir des situations qui sont quand même assez complexes.
Exact. Les clients, par exemple, qui ont des compagnies de gestion, est-ce que je me paye un salaire, un dividende, devrais-tu décaisser de ma compagnie maintenant ou le prendre dans mon CELI? Toutes ces questions-là, on peut aider là, à choisir dans quel pot piger.
Exactement. Puis on aime aussi beaucoup travailler avec les professionnels qui sont dans votre vie aussi. Donc, si vous avez un comptable ou fiscaliste. Et finalement, est-ce que tu peux parler de nos services de protection?
Oui, donc on parle de protection. On fait référence ici à l'assurance de personne, donc l'assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave. Bien souvent, on va voir l'assurance comme étant un besoin de protection. Donc, j'achète une maison, j'ai des jeunes enfants, je veux les protéger en cas de décès prématuré. Il y a aussi une possibilité de voir l'assurance comme étant un investissement. Donc, si j'ai de l'impôt à payer au décès, ça, c'est une certitude, ben est-ce que ça coûte moins cher de payer une prime d'assurance-vie que de payer l'impôt, donc de prendre un contrat pour couvrir l'impôt à payer au décès? Si j'ai une compagnie de gestion, est-ce que je peux prendre un contrat d'assurance maladie grave en détention conjointe entre ma compagnie de gestion puis le personnel? Donc, il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être mises en place qui vont, oui, d'abord, la protection en cas d'événement imprévu, mais aussi étant vu comme un investissement. Beaucoup de nos clients, quand on leur pose les questions, c'est quoi vos protections, ils vont nous dire, ben, avec la compagnie, avec le bureau, là, j'ai le collectif. Mais quand on demande de préciser, c'est un petit peu difficile d'avoir l'information. Donc, si on comprend que ce n'est pas votre passion de lire les documents de ressources humaines, envoyez-nous-les, on va les analyser, on va bien comprendre c'est quoi vos protections de base avec la compagnie. Des fois, ça peut être une bonne idée de compléter avec des contrats privés, personnels. Ça vous permet aussi, souvent, si on veut changer d'emploi, puis on se dirige vers une autre entreprise qui n'a peut-être pas de protection, une start-up, par exemple, ben là, ça peut me limiter dans mes choix d'emploi. Donc, si j'ai un petit peu de protection personnelle, ça peut me permettre là, de faire ces choix-là un petit peu plus allègrement.
Puis, on a déjà eu Sonia aussi sur notre balado, qui est notre spécialiste. Donc, tu as ta licence en protection, en assurance, mais on se réfère beaucoup à l'équipe de Sonia.
Exact.
Pour nous aider avec ça.
Parce qu'elle ne fait que ça. Elle est hyper compétente. Donc, tu sais, moi, oui, je suis qualifié, mais comme je n'en fais pas assez, je ne ferai pas un bon travail. Et puis, plutôt que faire un mauvais travail, on préfère envoyer vers un spécialiste là, pour s'assurer qu'on fait vraiment la meilleure chose.
Exactement. Puis, encore une fois, on a d'autres spécialistes. On a des spécialistes en transfert d'entreprise. On a déjà invité cette équipe sur notre balado. On a aussi la fiducie des jardins. Donc, beaucoup de services à vous offrir. Merci, Martin. Je pense que le message qu'on veut envoyer aujourd'hui, c'est Martin et moi et toute notre équipe, on veut ajouter de la valeur dans votre vie financière. Donc, faites-nous signe. Pensez à nous lorsque cela touche de près ou de loin à la finance. On va toujours voir comment on peut vous aider. Pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.